à l'ombre du baobab.
Bienvenue sur Radio FR. Ce matin, on lance une question qui ne trouve pas sa réponse en 30 minutes. Y a-t-il une vie après la mort? C'est le thème choisi par un film et un livre dont le but est de faire découvrir la médiumité au grand public et de confronter des personnes qui ne croient pas aux médiums, dont des scientifiques à ces séances, hein, plutôt que de les faire réagir simplement. Et une médium de Martigny a accepté de se confronter à votre caméra, Denise Gian. Alors Denise, dans le fond, vous n'êtes pas médium, vous n'êtes pas non plus dans le domaine. Comment on vient à s'intéresser à un tel thème? Vous avez une sensibilité déjà?
Alors je dirais que c'est une question qui ne m'a pas quittée depuis toute petite, mm-hmm. La question de l'après-vie. Je ne comprends pas d'ailleurs ceux qui ne se la posent pas. Et j'ai eu la chance il y a 10 ans de faire un premier film qui s'appelle Aux frontières de la mort, sur les expériences de mort imminente. Et j'ai recueilli dans ce cadre-là plusieurs témoignages de personnes que les médecins disent décédées cliniquement. Le corps physique est, on ne respire plus, l'électroencéphalogramme est plat, on est déclaré mort. Mais néanmoins, la conscience et la mémoire subsistent.
Voilà, ils se souviennent de quelque chose.
Ils se souviennent de quelque chose, mm-hmm. de façon très troublante dans la précision en fait de leurs souvenirs que les médecins peuvent contrôler. Par exemple, ils relatent de ce qui s'est passé dans la salle d'opération alors qu'ils étaient morts.
Et puis ils n'ont pas ces connaissances-là.
Eh bien non, ils n'ont pas ces connaissances.
Pas médecins,
puis le cerveau est plat, l'électroencéphalogramme est plat. Donc ça, ça m'a beaucoup troublée. Puis ça m'a amené à me dire que nous habitons notre corps et nous ne sommes pas mm-hmm. notre corps. Hein, que la conscience, notre conscience se délocalise. Moi, j'appelle ça conscience. D'autres pourraient l'appeler l'âme ou l'esprit. Ouais. Mais ces témoins-là relatent les 2-3 minutes qui suivent le décès du corps clinique et on ne peut pas aller au-delà. Personne ne revient de la mort. Donc je me suis dit, bon, mais si je veux explorer plus loin, quoi, comment, avec qui? Ben, les médiums.
Voilà, il restait donc les médiums et c'est pour ça que vous êtes intéressé vraiment à la médiumnité. Et donc c'est de là que part ce film. Comment vous avez fait pour trouver quelqu'un qui vous réponde, une médium qui soit d'accord de se confronter et puis d'ouvrir, parce que c'est assez secret comme monde, comme ça, vu de l'extérieur?
Alors c'est de moins en moins secret. Justement, mm-hmm. il y a énormément de médiums, il y a des écoles de médiumnité, des universités de médiumnité qui existent actuellement en Europe, dont une à Neuchâtel. Donc c'est quelque chose qui se popularise, qui devient de plus en plus accessible, qui se professionnalise aussi. Mais c'est vrai que le grand public ne le sait pas forcément. Alors moi, pour répondre à votre question, pour trouver une médium pour le film, j'en ai vu d'abord une bonne cinquantaine. J'ai vu aussi des démonstrations publiques de médiumnité. Je suis allée dans des écoles de médiumnité à Londres, à Neuchâtel justement, pour comprendre cette profession. Et il s'agissait de trouver un ou une bonne médium. Mais au-delà de ça, ce qui était très important pour moi rapidement, c'est qu'il fallait quelqu'un qui ait une certaine éthique, un vrai respect de l'humain, et qui ne fasse pas de prédiction d'avenir. Je tenais beaucoup à ça. Parce que quand on a affaire à un médium, on lui donne un pouvoir extraordinaire, parce que le médium parle avec l'invisible. On arrive souvent dans une situation de douleur ou de détresse, avec un besoin soit en lien avec sa santé physique, soit en lien avec le décès de quelqu'un. On est dans une situation de fragilité, je dirais, au moment où on contacte un médium.
Et on est en demande.
Donc on donne beaucoup de pouvoir à l'autre. Donc pour moi, dans le film, c'était très très important de choisir quelqu'un qui, en aucun cas, que la médiumnité fonctionne ou pas, qu'en aucun cas cette personne soit susceptible d'induire quelque chose de négatif ou de faire du mal. Alors Céline Besançon-Sommer, que j'ai choisie, a cette immense qualité d'être vraiment très 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 simple déjà, très très bien ancrée, très terre à terre, je dirais, Madame Tout le Monde, voilà. Mais surtout, elle a d'abord une formation de maître socio-professionnel. C'est quelqu'un issu du social. Donc dans sa façon de parler, elle est toujours très 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 respectueuse de l'humain et jamais je l'ai entendue dire quelque chose de menaçant ou de négatif. Alors voilà pourquoi ce choix, c'était fondamental pour moi.
Parce que c'est vrai qu'on a des préjugés souvent, la société en a, vis-à-vis des médiums. On a souvent des personnes qui pensent que c'est des charlatans. Et comment vous abordez ça? On peut aussi poser la question à Magali Yeni, puisque vous avez aussi traité toute cette question-là avec les guérisseurs, les rebooteux. C'est vrai qu'on vient et on a une demande de résultats. C'est comme chez les médecins, on a toujours une demande de résultats. Et si ça ne marche pas, c'est des charlatans, etc.
C'est un peu ça. C'est vrai que les gens qui sont malades placent tous leurs espoirs dans une personne. Et puis les guérisseurs, à moi, me répondaient toujours mais oui, pour les miracles, il faut aller à Lourdes. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour aider de leur mieux. Mais c'est vrai que ceux qui promettent des miracles, moi, je m'en méfierais quand même un peu. Là, non, c'est une aide qui est proposée. Et puis très souvent, en complément de la médecine officielle ou la médecine d'école, si on peut l'appeler comme ça. Et cette complémentarité, c'est ça qui fait que tout fonctionne et tout se passe bien. Et puis je trouve aussi important qu'on puisse en parler à son médecin, parce que le médecin, à ce moment-là, sait la démarche de la personne dans une autre médecine ou dans une autre possibilité de guérir. Et il y a aussi cette possibilité de contrôle dans le dialogue avec, avec son patient.
Et puis, vous dites complémentarité, mais souvent, ce n'est pas un dernier recours. On a épuisé toutes les possibilités. On va voir quelque chose encore plus loin parce qu'on ne va pas d'abord chez son médium pour... ou un rebooteur pour pouvoir avoir des réponses sur une maladie ou quelque chose, on va d'abord chez son médecin.
Alors ça peut être les deux. Dans le cadre des faiseurs de secrets, c'est plutôt une première approche.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose qui va très vite, qui, si on pense aux brûlures, on se brûle, évidemment, si on a une très très grande brûlure, on va immédiatement aller à l'hôpital. Mais si c'est quelque chose de relativement bénin, mais qui peut faire très mal, on a recours d'abord aux faiseurs de secrets et ensuite aux médecins. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est après avoir été longuement traité, en voyant que les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait, qu'on se tourne vers un guérisseur et j'imagine encore plus vers un médium.
Vous voulez réagir, Denise ?
Alors volontiers, parce que dans le film, il y a une séquence où on voit Céline, la médium guérisseuse, aller à l'hôpital traiter une patiente devant une médecin scientifique qui est spécialiste des cancers. Et Céline traite la patiente devant cette scientifique qui, en conclusion, dit « On ne sait pas comment ça marche scientifiquement, ouais. Mais peu importe. Ce que nous, médecins, constatons, c'est que ça marche. »
Il y a des résultats.
Il y a des résultats. Et il faut vraiment... Enfin, elle encourage vraiment la complémentarité dans les traitements, surtout en matière de cancer, où on peut souffrir de brûlures, en radiologie, etc. Et c'est une démarche qui s'ouvre de plus en plus, qu'on peut constater de plus en plus. Mm-hmm. Alors, de façon encore frileuse, on est d'accord, hein, parce que les médiums guérisseurs ne vont habituellement pas dans les hôpitaux, quoique ça commence à s'ouvrir. Et je tiens à le préciser et à l'encourager, parce que vraiment, là, il y a tout plein de témoignages de clients, de patients à qui ça fait vraiment du bien.
Vous avez dit aussi, les deux, vous parlez de médecine. Vous avez laissé glisser ce mot-là. C'est une médecine ?
C'est une médecine, une thérapie, une méthode. Moi, je dis toujours, le guérisseur et le médecin ont le même but. C'est soigner, guérir, enfin aider la personne, mais avec pas du tout la même méthode. Voilà, c'est une question de choix des outils qui est différente. Mais oui, moi, je considère ça comme une médecine. Oui.
Ça fera peut-être rebondir des scientifiques ou des personnes. D'ailleurs, c'est justement ça que vous mettez en avant dans votre film, hein, Denise Gillian, médium d'un monde à l'autre. Là, vous confrontez vraiment des scientifiques et des gens qui n'y croient pas face à ces séances, mais au lieu de simplement leur montrer une séance, ils vont participer à la séance.
Oui, alors ça c'est une démarche que j'ai dans tous mes films, c'est que plutôt que de faire des théories sur un sujet ou de faire témoigner des gens après avoir vécu une expérience, j'aime faire vivre aux spectateurs en direct les choses. Mm-hmm. Donc là, le processus mis en place, c'est des séances de médiumnité devant la caméra, en direct, données à des gens qui n'y croient pas, les yeux bandés. Et parmi les gens que nous avons invités à venir, parce que leur point de vue m'intéressait à cause de leur profession, il y a une neuroscientifique qui peut témoigner de tout le fonctionnement du cerveau, etc. Il y a un psychiatre, parce que combien de fois on dit oui, mais ça marche, que si on y croit, ouais. Enfin, etc. Donc ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'un psy. Et puis il y a un athée convaincu, anticlérical, anti-spiritualité, Narcisse Prin. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce que tous ont reçu effectivement une séance de médiumnité. Et puis ensuite, dialogue avec la médium pour donner leur point de vue de professionnel finalement sur ce qu'ils viennent d'expérimenter.
C'est ça, impressionnant, vous arrivez à confronter dans ce film deux personnes et des pensées très éloignées finalement. Quelqu'un qui vient avec ses préjugés, quelqu'un qui finalement se sent peut-être mal à l'aise vis-à-vis de ces personnes, et tout le monde a accepté.
Bon, c'était pas facile hein, de trouver des scientifiques.
Ça aussi, c'était une grande recherche. On parle de la médium, vous avez une grande recherche, mais là aussi, vous avez une grande recherche sur ces personnes qui étaient d'accord de participer.
Oui, et des recherches qui n'ont pas toutes abouti. Par exemple, je voulais faire une expérience scientifique, mettre un électroencéphalogramme sur la tête de la médium pour observer ses fréquences cérébrales au moment où elle entre en transe, guérison. Donc là, on fait doucement rigoler le milieu scientifique. Quand
donc
on
là, ça n'a pas marché, vous n'avez pas...
Alors ça a fini par marcher, oui, on l'a fait avec le médium Hannes Jacob dans un hôpital de Bienne. Mais ça marche pour autant que le médecin soit notre complice.
Oui.
Et financièrement, par exemple, il n'y a aucune institution qui a pris le risque de financer ce type de recherche. Alors, au niveau mondial, il y a des recherches extraordinaires qui se passent, mais plutôt en Amérique du Nord, notamment avec Mario Beauregard qui a beaucoup publié là-dessus. Mais ici, en Europe, et plus spécifiquement encore en Suisse, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre des scientifiques, ne serait-ce que de s'y intéresser et de discuter avec nous. Alors ça, je trouve regrettable, parce que finalement, la médiumnité, le secret, etc., ce sont des gens qui se mettent en état de conscience modifié. Les états de conscience modifiés concernent tout un chacun, hein, et les explorer ne peut que amener sur des découvertes intéressantes sur comment est-ce qu'on fonctionne, comment le cerveau fonctionne.
Mmh. Je vous vois acquiescer, Magali Yeni. Vous pensez quoi de cette approche, cette démarche, ce film ?
Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. C'est vrai que quand mon livre est sorti, on m'a tout de suite dit, mais il manque un peu le côté guérisseur médium. Et c'est vrai que certains figurent dans mon livre, mais je leur ai accordé une toute petite place. Alors là, le mal a été réparé, en quelque sorte. Et je trouve cette démarche passionnante. Et j'ai cette même passion. J'aimerais qu'il y ait des choses scientifiques, justement, au niveau d'explorer ces états modifiés de conscience qui se passent. J'avais assisté à une conférence d'une chamane qui est justement sous le feu des projecteurs, si j'ose dire, de la médecine scientifique, où justement en France on teste elle a des électroencéphalogrammes pendant qu'elle entre en transe, et où on commence à comprendre certaines choses. Et je pense que c'est un domaine qui devrait intéresser tout scientifique. C'est inexploré, c'est immense. Donc
ne pas s'arrêter uniquement juste à ces livres, mais aussi aller peut-être voir quelque chose qui peut être pas facilement explicable ou qui n'a pas été expliqué.
Oui, parce que c'est ça. On nous reproche, pour en avoir discuté, de pas être scientifique, d'être naïve, de croire à ces choses-là. Mais il y a des dimensions qu'on ne connaît absolument pas et qui sont dignes d'intérêt de la part du monde scientifique. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques des sciences dures que ces phénomènes n'existent pas. Il faut pas les balayer non plus sous prétexte qu'on n'a pas ces critères-là de scientificité.
Denise ?
Par exemple, la plupart des médiums disent que c'est une aptitude qu'on a tous.
Oui.
Que c'est pas un don.
D'accord. Oui, parce qu'on parle souvent de cette partie don, c'est quelqu'un qui a cette possibilité et puis pas les autres.
Oui, alors en termes de médiumnité guérison, pour la grande majorité des médiums, c'est une aptitude qu'on a tous, plus ou moins développée. C'est comme le dessin, hein. Il y en a depuis tout petit qui dessinent super bien.
Les mathématiques, etc.
Les mathématiques, mais tout le monde peut apprendre à dessiner, ou tout le monde peut apprendre à compter. Les médiums disent qu'on a tous cette capacité parce que ce n'est rien d'autre qu'un sens, qu'une capacité cérébrale. Et là, alors, on rejoint justement les études sur les états de conscience modifiés qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Finalement, la grande force des médiums, c'est de savoir descendre leur niveau de fréquence cérébrale, se mettre dans un état vibratoire, finalement, qui correspond au moment que nous on rencontre juste avant de s'endormir. Sauf que leur force à eux, c'est de maintenir cet état-là, une demi-heure, une heure, le temps qu'il faut. Nous, on s'endort.
Voilà,
on bascule dans le sommeil. Donc, ce serait quelque chose qu'on apprend et qui est vraiment une aptitude. Donc ça, ce serait intéressant, justement, du point de vue de la science, hein, de comprendre comment ça se passe, et puis peut-être de développer plus, peut-être à l'école, des séances de méditation, ou que sais-je, qui nous permettraient de mieux vivre aussi, ou d'utiliser plus pleinement toutes nos capacités.
Et puis, l'autre chose aussi dans ce film, c'est que vous abordez, donc là on parle surtout de la médiumité, mais vous avez décidé de rentrer dans un sujet assez conséquent, parce que la question et le thème que vous empoignez aussi, c'est ce sujet, et donc cette question, y a-t-il une vie après la mort ? Comment ça se fait qu'on parle, vous pouviez faire seulement quelque chose vis-à-vis de la médiumité, mais vous avez voulu prolonger, bon ça vous intéressait aussi beaucoup, cette question-là ?
Alors, le médium, avant toute chose, fait le lien entre des esprits défunts ou des guides spirituels et des vivants. Ensuite, certains médiums font de la peinture, de la guérison, etc. Mais le propre du médium, c'est d'abord de pouvoir communiquer avec des esprits. Donc là, on est pleinement dans cette question de la survivance de l'âme, de la vie après la mort. Parce que le médium, a priori, tous les médiums font ça, avant de développer peut-être d'autres facultés. Donc, médiumnité, ce questionnement sur l'après-vie, ça va complètement de pair. Maintenant, pourquoi est-ce que cette question m'habite? C'est très difficile de vous répondre. Mais pour moi, c'est indissociable. La qualité de vie, par exemple, une qualité de présence, de réceptivité aux autres, passe par l'invisible. Je sais pas, une pensée, elle est invisible.
Oui, tout à fait.
Voilà. Au même titre qu'un esprit est invisible. Je fais pas la différence tellement, moi, entre justement, je sais pas, télépathie, attention à l'autre, de son vivant, ou dans l'au-delà. Et je trouve qu'ici, c'est regrettable, dans nos sociétés matérialistes, c'est très regrettable qu'il n'y ait plus de culte des ancêtres, qu'on traite les morts comme on les traite. Moi, je suis terrifiée quand je vois qu'on met les morts au frigo et qu'il n'y a plus de veillées funèbres. Je trouve ça, mais catastrophique. Mm-hmm. Donc voilà, c'est aussi peut-être une façon de réhabiliter des rites ou d'attirer l'attention sur le fait que, oui, pour moi, quand on est mort, on reste néanmoins un être.
Tout à fait.
Même si la conscience ne survit pas, hein, on a été quelqu'un, enfin, on mérite des égards, voilà.
Voilà. En même temps, vous dites qu'on n'a plus vraiment ce culte des ancêtres et donc ce rapport à la mort. Mais par contre, le thème de la médiumnité est extrêmement à la mode. Vous avez beaucoup de succès. Votre livre aussi, Magali Yeni, a eu beaucoup de succès. Donc, aussi avec ce lien avec les rebooteux des guérisseurs. C'est à la mode. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a besoin de ça? On a besoin de ces réponses?
Alors, moi, je crois que oui. Je pense que justement, on a un peu dérapé dans nos sociétés à force de matérialisme, de soucis de performance, etc. Je pense que l'humain a vraiment besoin de se relier à plus grand que soi. Là, je parle pas de religion, hein, parce que je ne défends aucun dogme, je ne participe d'aucune église. Mm-hmm. Les médiums que j'ai filmés, pour la plupart, non plus. Je tiens à le préciser. Mais je pense qu'on a besoin, en tant qu'humain, de se relier à plus grand que soi. À faire partie, ne serait-ce que d'une collectivité. Bon, quand on élargit un peu, bah, se référer justement à un au-delà, à une dimension, dans laquelle il y a des valeurs comme la solidarité, le respect, la dignité. Je veux dire, tout ça, c'est ce qui donne du sens à la vie. Alors, quand on parle médiumnité, quand on parle spiritualité, on se relie à quelque chose qui nous rappelle ces valeurs fondamentales qu'avant véhiculaient les églises. Alors, voilà. Les églises sont en perte de vitesse.
Donc, maintenant, il y a plus d'intérêt pour ces médiums avec la perte.
Je pense. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se compense de cette façon-là, à travers le yoga, les méditations, la médiumnité, les guérisseurs. Je pense qu'il y a une quête, une soif de l'humain à se relier, quoi, à se relier à une forme de spiritualité qui ne passe plus forcément par l'église.
Tout à fait, avec les médiums. Et donc ce film, hein, Médium d'un monde à l'autre, c'est un vaste sujet et extrêmement intéressant. Et donc vous avez la possibilité d'en savoir plus et puis de découvrir ce film, notamment grâce à ce site internet, hein, www.medium-lefilm.com. Et puis samedi aussi, à 16h30 au Rex de Fribourg. En plus de ça, là, l'occasion vous est donnée de pouvoir réagir, de pouvoir parler avec donc Magali Yeni qui est avec nous aussi ce matin, ainsi que Denise Gillan, réalisatrice de ce film, et puis la médium aussi qui vient, Céline Bozon-Sommer. En tous les cas, on peut lui dire chapeau, hein, puisque se confronter aussi au public, ça doit être pas toujours très facile. Il y a peut-être des préjugés qui arrivent. Vous avez eu des fois des réactions un peu difficiles ou...
Alors je dois dire que dans sa majorité, le public est vraiment adorable.
Ouais.
Les retours sont très très positifs. On a eu une ou deux réticences comme ça.
Parce qu'il y a quand même, c'est quand même un sujet qui est parfois difficile pour certaines personnes.
Alors surtout des gens d'église.
Ouais.
Dans les débats.
Oui.
Voilà. Les contradicteurs, les gens qui étaient dérangés quand même par les pratiques médiumniques étaient des évangélistes ou des gens qui vraiment étaient des défendeurs. L'Église catholique condamne, hein, les pratiques de la médiumnité, etc. Donc voilà, c'est les seuls en fait contradicteurs virulents, je dirais, qu'on a eu.
Et puis en même temps, c'est une discussion que vous lancez, c'est pas nécessairement un plaidoyer pour la médiumnité.
Mais absolument, c'est une proposition qui est faite, on donne à voir et à sentir ce qu'est la médiumnité, on cherche à convaincre personne, et puis les gens qui viennent en salle, c'est qu'il y a une curiosité pour ça, donc a priori, ils sont plutôt bienveillants.
Absolument. On revient dans quelques instants, on parlait encore un petit peu ce matin de ce film, Un médium d'un monde à l'autre. Voici Jean-Louis Aubert sur Radio FR.
Tu entends chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison.
C'était Jean-Louis Aubert à l'instant sur Radio FR. Excellente matinée, nous sommes aujourd'hui avec Denise Gillian et Magali Yeni pour évoquer notamment ce film Médium d'un monde à l'autre qui est sorti au début du mois. C'était le 1er novembre précisément, donc c'est la sortie d'un film et d'un livre. Et une représentation est prévue notamment à 16h30 au Rex de Fribourg ce samedi pour pouvoir un peu confronter eh bien peut-être aussi vos points de vue, enfin suivre le film et pour ensuite avoir un débat, tout ça en lien avec la médiumité. On en parle encore un petit peu. On a parlé tout à l'heure de cet attrait et puis de cet intérêt peut-être renouvelé vis-à-vis des médiums, des guérisseurs, des rebouteux. On avait vu qu'il y avait peut-être une certaine crise vis-à-vis de la spiritualité. Pourquoi on s'y intéresse? Vous avez eu un bon succès pour votre livre. Vous avez fait des conférences aussi. Il y a toujours un fort intérêt.
Oui, l'intérêt est vraiment là. Alors, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Moi, je pense que l'essentiel de ce succès, c'est cette perte d'humanité qu'on a dans la médecine d'école à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on est performant au niveau scientifique, on développe les machines. Par contre, on perd un peu cette vision globale de l'être humain, de considérer autre chose que le symptôme ou l'endroit qui est touché par une maladie, mais de vraiment reprendre l'être humain dans sa globalité, de le remettre dans son contexte social. Et c'est ça qui manque beaucoup. Mmh. Et ça se passe d'une façon plus harmonieuse chez les guérisseurs et je suppose aussi chez les médiums.
Et vous, c'était quoi votre intérêt? Parce que vous avez fait un grand travail, vous avez vu beaucoup de guérisseurs, de rebouteux.
Mais c'était ça quelque part, c'était de dire c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves que ça n'existe pas. Mm-hmm. Pour moi, vraiment l'honnêteté intellectuelle, c'est ça. C'est de dire voilà, il y a un phénomène, qu'il soit tangible ou pas, mais on a le droit de s'y intéresser.
Parce que c'est vrai que souvent, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on se dit finalement, on n'explique pas, on le met de côté. Mais vous dites non, finalement, vous avez envie d'aller là-dedans, mais finalement, sans nécessairement trouver des réponses, on ne trouve pas de réponses. Où on en trouve? C'est une grande question, ça.
On en trouve un bout des réponses, un bout, mais heureusement, l'au-delà reste mm-hmm. un mystère. Mais pour compléter ce que dit Magali, moi je dirais, il semble aujourd'hui déraisonnable de ne pas s'intéresser à tous ces mécanismes médicaux, de guérisseurs et ça. Parce qu'il y a tellement de témoignages, tellement de gens qui ont guéri à travers, grâce à des gens qui ont le secret, ou des guérisseurs, ou des médiums. Il y a tellement de témoignages, de descriptions extrêmement précise de défunts faits par des médiums qui ne les connaissent pas, où est-ce qu'ils vont chercher ces informations? Il y a indéniablement quelque chose qui se passe, qui nous dépasse. Donc, de mon point de vue, il est déraisonnable de ne pas s'y intéresser.
Donc ça, vous dites ça pour le monde scientifique?
Pas que pour le monde scientifique.
Aussi pour tout le monde, ouais.
Je pense que c'est une question importante. C'est notre devenir à tous. Mm-hmm. La mort et notre santé et notre présent à tous. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est des questions de fond, des questions fondamentales qu'on devrait aborder à l'école des tout-petits, enfin qui devraient vraiment participer de notre présent quotidien.
Ouh, là, vous lancez des grands sujets à toucher à l'école. Vous pensez vraiment que...
Bon, dans les films que j'ai faits, il y avait notamment un film sur la pédagogie Steiner, mm-hmm. qui pour moi participe de la même chose, qui questionne et qui prend en compte l'enfant dans sa globalité, parce qu'on ne se réduit pas à un savoir intellectuel, ne se réduit pas à un corps quand on parle de médecine. Donc oui, c'est des thèmes qu'on retrouve un peu dans tous mes films et mm-hmm. qui me tiennent vraiment à cœur, effectivement.
Et vous avez d'autres projets, vu que... Vous êtes dans ce domaine-là, vous avez d'autres projets, des envies, et maintenant que vous avez fait celui-là, vous dites, tiens, maintenant je vais aller plus loin.
Alors oui, j'ai toujours des envies, etc., mais je n'ai pas de projet sur le feu. Mais...
Oui, parce que maintenant il vient de sortir.
Ouais, hein, celui-là, je vais l'accompagner déjà tout bien, c'est déjà pas mal. Mais j'ai une curiosité de plus en plus grande pour la physique quantique.
D'accord. Très bien, donc on vous suivra, Denise Gion. Donc je vous rappelle ce film, Médium d'un monde à l'autre, et puis il y aura un DVD aussi à partir du 2 décembre, et puis une représentation à 16h30 au Rex de Fribourg ce samedi, et puis plus d'informations sur le www.medium-lefilm.com, et puis il y a aussi un livre, le livre avec, là on peut le trouver partout.
Alors oui, il est édité par Favre, on le trouve tout partout en librairie.
Voilà, et donc ça c'est, il peut être lu indépendamment, ça on peut bien le dire, indépendamment d'avoir
tout
vu le
fait.
Film. Parce que c'était donc c'est un peu le complément en même temps de tout ce que vous aviez récolté, parce que c'était assez impressionnant et un grand travail. En tous les cas, c'est un sujet extrêmement intéressant, ça je pense qu'on peut tous le dire. Pour vous Magali, votre livre est toujours disponible?
Oui, toujours.
On peut le retrouver dans toutes les librairies.
Oui.
Comment s'appelle-t-il? C'est
Guérisseur, rebouteux et faiseur de secrets en Suisse romande.
Voilà, est sorti aux éditions
Favre aussi.
Aux éditions Favre aussi. Merci en tous les cas d'avoir passé un petit instant avec nous ce matin. Pour le sujet, on a juste effleuré, j'imagine, le thème. Mais vous pouvez donc le prolonger grâce à notamment ses ouvrages et ce film qui est donc sorti en salle et qui sera donc notamment ce samedi à 16h30 au Rex de Fribourg. Comme ça, on le rappelle. Merci bien et une belle journée.
Merci, à vous aussi.
À l'ombre du baobab.